Septième émission dans notre musée imaginaire. Bonjour à tous nos auditeurs qui, j'espère, sont de plus en plus nombreux. Alors d'emblée, je voudrais que vous essayiez de voir sur votre téléphone, votre télévision, votre tablette, un tableau de Gauguin qui est fondamental, qu'on va étudier aujourd'hui pour mieux comprendre l'évolution artistique de Gauguin, intitulé « La vision après le sermon ou la lutte de Jacob avec l'ange ». Dans notre émission sur l'impressionnisme, on avait évoqué bien sûr les principaux acteurs, Monet, Renoir, etc. Et je vous avais signalé qu'après ces principaux acteurs, d'autres artistes avaient eu des phases impressionnistes, à savoir Manet, Cézanne, Van Gogh, Gauguin et Degas. Et nous reviendrons sur chacun de ces acteurs. Et aujourd'hui, nous allons, dans une première séance, nous étudier Paul Gauguin, du moins une partie de sa vie. Paul Gauguin, ses dates de naissance, c'est 1848-1903, il est décédé à l'âge de 55 ans, et il va faire le lien entre la vie privée et l'art, c'est-à-dire la peinture. Il fera partie de ces artistes maudits, à l'instar de Van Gogh. Il est né à Paris, son père est journaliste, républicain, et son père est exilé au Pérou, exilé politique sous Napoléon III pour des raisons donc politiques. C'est une famille aisée, son père meurt au Chili, et Paul revient en France, il a 7 ans, il a une scolarité à Orléans. En 1871, il devient agent de change jusqu'en 1883. Donc pas de peinture, il gagne bien sa vie. Et puis, en 1874, il devient peintre amateur, ce qu'on appelle un peintre du dimanche. Et là, il rencontre Pizarro la même année. Et en 1874, vous le savez, c'est la première exposition impressionniste et l'ami Pizarro le fait rentrer dans le cercle des impressionnistes. En 1879-1886, c'est une phase impressionniste de Gauguin. Il participe à la quatrième exposition. Là, il va rencontrer Manet, Renoir, Sisley, Monet. Et Monet va l'appeler le barbouilleur. En 1883, il perd son travail. C'est la crise économique en France. Il a 37 ans et il se pose la question « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et il fait un choix, il décide d'être un peintre. Je veux être un peintre, en faisant ce choix, je deviens pauvre. C'est un choix de la pauvreté au nom de l'art. Il a fait le tour de l'impressionnisme. Je cite un tableau impressionniste de Gauguin comme la scène au pont d'Iéna, Temps de neige, en 1875. Donc c'est une idée de trouver son propre style. L'impressionnisme, je cite Gauguin, il dit « c'est bien, mais je ne marquerai pas l'histoire de l'art ». Je vous signale que dans tous les mouvements de peinture, les jeunes peintres n'ont qu'un seul rêve, c'est de marquer l'histoire de l'art, de se distinguer des autres mouvements artistiques. Et il va critiquer l'impressionniste. On va donc le classer dans le post-impressionnisme. Et il cite « l'impressionnisme, je cite Gauguin, c'est un cercle vicieux, l'essentiel, c'est d'en sortir ». Et il va vouloir remettre du contenu dans sa peinture. Donc il va se tourner vers des thèmes religieux et nous allons comprendre pourquoi. En 1903, il va basculer dans ce qu'on appelle le symbolisme. Et vous allez comprendre dans les pages suivantes, les lignes suivantes, ce que veut dire ce terme. Gauguin et la Bretagne, c'est un premier chapitre important, 1886-1890. En 1886, il rencontre les frères Van Gogh, Vincent et Léo. Il quitte Paris pour des raisons économiques pour aller en Bretagne, à Pont-Aven. Et là, il existe un sourcil artistique majeur pour lui. Il veut dépasser l'impressionnisme. Il dit qu'il faut quitter la capitale, considérée comme un lieu corrompu, donc un retour aux sources. Et on va appeler ce retour aux sources le primitivisme. On cherche à nouveau retrouver aux sources de la chrétienté, retrouver aux sources des vraies valeurs sociales. Et à Pont-Aven, donc, il veut rencontrer l'authenticité. Après plusieurs séjours en Bretagne, il part à Arles. En 88, il a une expérience avec Van Gogh. Ils vivent ensemble quelque temps. C'est aussi du primitivisme. Puis, séparation brutale. Gauguin, en 88, repart en Bretagne. Vous voyez, il y a beaucoup de va-et-vient avec la Bretagne. Et la date de 1888 est une date clé pour Gauguin, car il va mettre en place ce qu'on appelle le synthétisme. Qu'est-ce que le synthétisme? C'est une utilisation d'aplats colorés, c'est-à-dire une surface colorée importante. Et dans le tableau dont je vous ai parlé au tout début, la vision après le sermon, vous voyez un très grand aplat rouge. C'est ça, le synthétisme. Et il va simplifier les formes. Donc il est marqué par le primitivisme, le retour aux sources et le synthétisme. Et en 88, il va se positionner contre l'impressionnisme et le pointillisme, un mouvement que nous étudierons un peu plus tard, qui a succédé à l'impressionnisme avec Seurat, qu'on appelle le divisionnisme. Bon, il va retrouver son style personnel et on se penche maintenant sur ce fameux tableau, La vision après le sermon, ou la lutte de Jacob avec l'ange, qui est dans un musée à Édimbourg et qui est un chef-d'œuvre. La première description, j'espère que vous la voyez avec moi, c'est un premier plan. Ce sont des femmes bretonnes avec leurs vêtements spécifiques, des coiffes d'ange, avec des blancs extraordinaires des coiffes. Les mains sont en prière et les yeux sont clos. À droite, le curé de la paroisse. Le groupe est sorti de l'église et ce groupe est marqué par le sermon. Et il va collectivement avoir une vision. Sur le côté, nous avons une vache et un arbre au centre du tableau. Cet arbre est un pommier. En haut, à gauche, nous avons la lutte de l'ange avec Jacob. C'est un corps à corps. Jacob résiste à l'ange. C'est fort contre Dieu. C'est l'origine du mot Israël. Il va contemporaniser la scène, à savoir la coiffe, les vaches, le pommier, c'est ça le primitivisme. On revient aux sources. Valeur du rouge structurante avec cet aplat symbolique qui fait la part entre le réel et l'imaginaire et la couleur devient structurante. Il rompt avec la règle de la vraisemblance et du ton local, à savoir un ton d'arbre n'est plus vert, il est rouge. La couleur donc est symbolique et suggestive, la couleur devient indépendante, autonome et on peut parler de père du fauvisme en parlant de Gauguin. Donc nous voyons que nous avons une double scène religieuse, une scène de genre avec ces femmes habillées en bretonne en train de prier et une peinture sacrée, l'ange c'est Dieu et Isaac a été fort contre Dieu. C'est une démarche de primitivisme, il a vu des chrétiens à Paris, qui ont perdu un petit peu leur religion dans une période où la société se déchristianise, et lui, il va rechercher en Bretagne la foi authentique des Bretons. C'est un marteur spécifique de la Bretagne. Le code vestimentaire restitue ce primitivisme de la Bretagne avec, bien sûr, l'habillement, mais aussi la vache, qui est un marqueur de la Bretagne profonde. Donc on voit une scène réelle et une vision qui sont juxtaposées. La couleur rouge en aplat est extraordinaire du sol, couleur symbolique et subjective. On ne respecte plus le ton local, ce que feront les fauvistes. Ils changent la couleur normale en rouge. La couleur devient indépendante. Ils se libèrent du poids de la couleur de la nature. C'est la révolution Gauguin. Le critique d'art Daguin écrira « Ce chromatisme ne se justifie donc pas par l'observation d'un motif, mais par la recherche d'une transposition expressive. La couleur n'imite pas un objet, elle transcrit un état d'âme, la violence. » Et dans une prochaine émission, nous étudierons donc les séjours nombreux de Gauguin à Tahiti. Et nous voyons dans l'étude de ce premier tableau qui est remarquable, l'évolution vraiment de la peinture de Gauguin, son style. Il décide de devenir peintre, un peintre du dimanche, et il va évoluer à la recherche d'authenticité et tout faire pour se démarquer de l'impressionnisme. Et je terminerai par la phrase de Georges Pompidou. Je cite « L'œuvre d'art, c'est l'épée de l'archange. » Il faut qu'elle nous transperce. Elle n'est pas faite pour agrémenter notre vie quotidienne, mais pour nous arracher à elle. Autrement dit, l'art n'est pas de la décoration.